Bon, alors, est-ce que c'est le rôle des milliardaires français, des grandes familles riches de la France, de payer pour, en bonne partie, là, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris?
Bon, bien, Pierre-Yves Maxwin a bien montré qu'il y a des avantages fiscaux importants dans ces dons très, très généreux des grandes familles françaises. En même temps, la catastrophe est incontestable. Elle est majeure, patrimoniale, mondiale, universelle. Donc, il va falloir que ça soit reconstruit. Je pense que ça, tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Puis que tant mieux que les riches fassent leur part. Mais le fait que les riches soient intervenus avec une telle abondance et aussi rapidement, là, ça pose et ça illustre plusieurs des propos que même des non-méchants communistes peuvent penser, c'est-à-dire que les fortunes, ça illustre d'une part l'incroyable distance qui existe entre la majorité des gens en France et partout ailleurs dans le monde et les grandes fortunes, les plus fortunées. Ça illustre aussi à quel point les grandes fortunes ont des avantages fiscaux et jusqu'à un certain point, et jusqu'à un point certain, dictent les politiques fiscales des nombreux pays. Alors, quand on nous parle d'évasion fiscale, et de tout ça, il est loin le temps où on agira concrètement parce que en grande partie, ce sont les grandes fortunes de tout ordre, à la fois privées et de compagnies, qui influencent et finalement dictent les politiques fiscales. Puisque ce que ça illustre aussi, c'est un côté pervers des fondations et des dons privés. C'est-à-dire que les grandes familles, dans ce cas-là, choisissent la cause la plus noble. Ils vont s'associer à cette cause-là. Leur nom va être intégré à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Fort bien, tant mieux s'ils y mettent des millions. Mais en même temps, puis là, j'en reparlerai tantôt, on voit à quel point ces initiatives privées-là sont souvent liées soit à des intérêts ou à des choix très personnels qui ne sont pas nécessairement les choix et les besoins de la collectivité dans laquelle ces fortunes-là se sont érigés.
Mais tu vois, ça frappe l'imaginaire. T'sais. Une famille qui va donner, comme la famille Pinault, 300 millions de dollars. Famille Arnault, 200 millions. La famille Bettencourt-Meyers, 200 millions aussi. Tu as des compagnies aussi. Moi, j'ai rien contre la richesse. Mais un peu comme Pierre, je me dis, est-ce que ces gens-là sont imposés, disons, à leur pleine mesure? Puis en France, on le voit, c'est assez facile de cacher des fortunes. Je veux dire, le symbole des symboles des dernières années, Paul, c'était le ministre responsable d'évasion fiscale qui lui-même cachait de l'argent en Suisse. Oui. Il y a
ben, au moins, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience. Ben, déjà là, tu sais.
Il connaissait le tabac. Donc, si après avoir été imposé justement, il te reste de l'argent pour contribuer à des causes semblables, correct. Mais ce qui frappe, justement, en Occident, bien souvent, puis le meilleur exemple, c'est aux États-Unis, c'est il y a tellement d'influence politique que le fric peut acheter que tu finis par créer le cadre fiscal dans lequel tu évolues. Et c'est là que ça devient injuste. Parce que pour cette famille-là, de les Pinault, de donner 300 millions, c'est probablement... c'est un gros montant, mais c'est probablement en proportion de leurs actifs, de leurs avoirs, de leur fortune, de leur fondation, etc. C'est probablement un moins grand sacrifice que quelqu'un qui a un salaire moyen qui donnerait un gros montant. Donc, c'est là qu'il y a cette injustice. Puis en France, n'oubliez pas une affaire, on est en plein mouvement des Gilets jaunes qui parle de quoi? Qui parle un peu beaucoup d'équité fiscale. Qui dit, nous autres, le peuple en bas dans la rue, là, qui ne sommes pas de la haute, qui ne sommes pas allés dans les bonnes écoles, qui n'ont pas des bonnes familles, bien, on est étouffés par le fardeau fiscal. Et là, ça fait beaucoup de pognon, comme ils disent là-bas.
Alors, ça illustre le lien bien connu entre l'Église, l'État et l'argent. C'est un exemple frappant. Puis la question qui se pose, c'est est-ce que ces grandes fortunes-là sont aussi généreuses à l'égard des causes sociales et humanitaires? Il n'y a rien qui dit qu'elles ne le soient pas, mais il n'y a rien qui dit qu'elles le sont non plus. J'ai regardé du côté des États-Unis parce que le phénomène est troublant. On l'a vu ici un petit peu avec la Fondation Chagnon, puis on le voit avec les fondations des Gates, les fondations de, comment il s'appelle, Buffet, fondation de Zuckerberg. C'est des fondations multimilliardaires. Elles œuvrent dans des champs particuliers. Un des cas qui s'est posé, puis je dis ça là en toute, comment dire, en toute reconnaissance de l'apport de la famille Chagnon à certaines causes, en particulier pour les enfants. Mais la question qui se pose, c'est quand une fondation décide qu'elle va investir dans ce type de programme, par exemple, est-ce que ce type de programme-là, c'est le programme le plus souhaitable ou le mieux organisé? Est-ce que c'est celui qui va répondre à tous les besoins? Tu sais, il y a des choix donc personnels. Ils influencent comme ça des politiques, des façons de faire. Des fois, pas nécessairement d'une façon nécessaire et utile.
Mais tu vas donner pour des causes qui tiennent à cœur, qui te touchent pour toutes sortes de raisons.
Je te donne l'exemple. La famille Gates, par exemple, ils donnent des milliards et là, ils donnent pour des causes globales. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus dans le spécifique. Parce que le danger dans une fondation, c'est qu'elles disent, ben moi, je m'occupe, par exemple, de tel type de personnes qui ont tel besoin. Je ne sais pas, moi, des gens qui ont le sida ou ben non, les gens qui ont besoin, qui sont qui ont subi, qui sont des drogués. Et je m'occupe de ça exclusivement. Je mets tout mon argent au détriment de politique qui serait peut-être qui répartirait mieux les sommes. Les fondations qui semblent les plus exemplaires sont celles qui vont financer des causes globales, c'est-à-dire aider à combattre les maladies contagieuses en Afrique, en Asie. T'sais. Et ça, je trouve que c'est une bonne manière de gérer ces milliards-là.
C'est une bonne manière de gérer ces milliards-là, oui, soit, mais quand on prend l'action sociale sur un territoire national comme en France, ce qu'on met en opposition présentement, c'est bon, les riches ont de l'argent pour mettre sur un édifice, ça demeure ça, même si c'est un symbole. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'ils donnent autant d'argent pour les pauvres? Moi, je trouve que c'est une mauvaise question. C'est les pauvres, les indigents, les sans-abri, ça devrait pas... Le soulagement de la douleur de ces gens-là devrait pas dépendre de la générosité des riches. Ça devrait dépendre d'une action juste des États.
Ouais,
mais c'est pas mal socialiste comme pensée, ça. Parce que ça veut dire...
Non, mais je vais donner l'exemple des fondations à Montréal dans le domaine de la santé.
Oui.
Là, tu dis, je paye des taxes. Normalement, pourquoi j'aurais à contribuer à une fondation pour faire fonctionner un hôpital, faire fonctionner un centre de recherche?
Oui.
Les anglophones ont une longueur d'avance, évidemment, historique, là, parce que les familles anglophones riches qui ont des fondations, bon, ben il y en a depuis plus longtemps. Mais je vais donner l'exemple de Maisonneuve-Rosemont, qui pendant des années organisait des événements pour financer un centre de cancérologie. Dominique Michel qui a parrainé le projet.
Oui.
Je pense que si ça n'avait pas été de ça, donc de l'opération d'une fondation d'un hôpital, pas certain que ça aurait nécessairement avancé aussi vite.
Je suis d'accord.
Puis je pense que ça ne serait même pas en train de se concrétiser.
Oui.
Puis dans le domaine, par exemple, de la recherche, j'ai reçu le docteur Roy l'autre jour, qui est un maître dans les cellules souches. Pas certain que s'il n'y avait pas une fondation autour qui pouvait aider, on serait aussi avancé. Mais... Je ne dis pas que l'État ne peut pas faire ça, mais je pense que c'est des fondations, ça a une raison d'être aussi.
Ah, écoute, si c'était pas le cas, on arrêterait d'envoyer des chèques régulièrement. Je pense que les fondations sont très utiles, mais souvent elles sont basées sur le fait que pour toutes sortes de raisons, il y a une fondation que tu vas privilégier, que tu vas soutenir financièrement.
C'est sûr.
Là où la question se pose, c'est quand les échappatoires fiscaux sont tels que des grandes fortunes de compagnies ou de privés échappent complètement à l'État et donc appauvrissent l'État et empêchent que l'État soit plus actif dans des causes, puis plus critiquable aussi.
C'est comme Bonneau, c'était un de ses arguments. Quand il se faisait... Avec les, on lui reprochait, par exemple, de s'installer en Irlande où les droits d'auteur n'étaient pas à l'époque imposés et tout ça. Sa réponse, c'était « J'aime choisir à qui je donne. Je veux pas que le gouvernement le fasse à ma place. »
C'est exact. Ouais, ben voilà, c'est ça. Puis, des fois, tant mieux, parce que il y a des fondations qui n'étaient pas là. Mais d'autres fois, tu dis globalement, voilà.
Merci. Amusez-vous bien. Vous êtes bénis. Nous allons à la pause.
Bon congé.
On va aller voir ce qui se passe sur Descaries.